d'avoir accepté les modalités de l'échange.
Oui, merci. Non, mais c'est vrai que c'est bien qu'il y ait des interactions vivantes. Moi, il y a énormément de questions. Et je dirais, j'ai regroupé plusieurs groupes de questions. D'abord, des questions qui s'interrogent pourquoi maintenant cette séance, procès barbarin et tout. Oui, bien sûr, ça va faire avec une véritable révolution culturelle, on pourrait dire, hein, pour prendre un tel exemple, parce que les réseaux sociaux, une évolution de la sensibilité, fait qu'aujourd'hui, il y a des choses qui étaient acceptées et qui ne le sont plus aujourd'hui. Il y a une question qui est-ce que ces problèmes, on s'attaque à ces problèmes maintenant, parce qu'ils sont liés à l'évolution d'une société qui était très patriarcale, laissant moins de place à l'enfant et à la femme. Cette évolution est en cours, oui, à l'évidence. Et je crois qu'il y a, un immense problème sur la place des femmes dans l'Église. Ça, c'est... Alors, on n'a pas, nous, à la CERS, on n'a pas été dedans parce que ça ne nous était pas demandé et parce qu'on avait suffisamment déjà dit de choses qui étaient difficiles à entendre. Ce n'est pas peine d'en rajouter, mais c'est une évidence. Et moi, travaillant avec les religieuses, je suis très surpris, pour être politiquement correct, de voir la manière dont elles sont considérées dans l'Église, hein, et tout le bien qu'elles apportent par leur seule présence féminine dans les congrégations, c'est évident. Donc oui, je crois qu'il y a une évolution sociale qui explique la SIAS qui a été demandée, je vous rappelle, par les évêques. Alors, est-ce qu'il y a des questions qui se posent sur la situation est-elle semblable dans les autres églises chrétiennes protestantes? Oui et non. Parce qu'il n'y a pas de cléricalisme, parce que les pasteurs sont mariés, ce qui pose d'autres problèmes d'ailleurs, parce qu'on a constaté que les pasteurs, il y a un taux de problèmes graves dans les familles de pasteurs, de divorces, bon, mais aussi d'inceste, d'autoritarisme qu'ont les protestants et qu'on n'a pas noué pour cause. Il y a des problèmes de communautés fermées, donc il y a des problèmes dans le judaïsme, dans les communautés fermées. Je vous recommande de voir le documentaire M, qui est très bien fait là-dessus. Alors, le protestantisme qui n'a pas de communauté fermée et qui n'a pas de cléricalisme a moins de problèmes. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de problème. Donc, qu'est-ce qui vous semble le plus important dans les propositions de la SIAS pour s'attaquer au caractère systémique? J'y reviendrai, mais c'est à l'évidence une synodalité, un agrandissement de la place des chrétiens dans le fonctionnement de l'Église, parce que c'est vrai que ce qui est très parmi les choses choquantes, l'absence de, les Anglais disent accountability, c'est-à-dire l'absence du sentiment de rendre compte au peuple de Dieu, de la part des clercs, est très très choquante. On fait notre tambouille en famille, et je crois que la distance du discours ad intra et ad extra, pour employer les termes consacrés, c'est-à-dire ce qui se dit entre les clercs, que ce qui se dit dans les communautés religieuses et ce qui se dit aux chrétiens en paroisse ou ailleurs, il y a une distance qui se creuse et qui me semble préoccupante. Et je crois que le peuple de Dieu, comme on dit un peu pompeusement, c'est-à-dire les chrétiens, ont le droit à avoir un certain nombre de vérités, ont le droit de partager des problèmes avec les prêtres et qu'il n'y ait pas cette distance très grande. Alors, le viol a été légalement considéré comme un crime en 81. Dans quelle année les paroles des victimes ont commencé à être entendues? Ben, très récemment. Et c'est pas du tout aussi facile que ça. Il y a énormément, c'est un de nos problèmes, c'est un de vos problèmes aussi, de gens qui sont mal, qui n'arrivent pas à parler. De victimes qui sont encore dans une très grande solitude et qu'il faut les aider à parler. Est-ce que les prêtres abuseurs se confient à des tiers en confession? C'est rare, enfin, c'est rare, je ne sais pas, parce que par définition la confession est secrète, mais il y a parfois des affaires de collusion entre prêtres, qui se donnent l'absolution réciproquement, quoi, dans, pratiquant les mêmes, tout ça, c'est ce que j'ai eu comme retour dans, alors, de la part d'amis prêtres et de gens que j'ai rencontrés. Alors, quels sont les types d'abuseurs? Les prédateurs qui travestissent la vocation religieuse pour chasser, des personnes fragiles qui craquent et qui n'assument plus leur morale sexuelle. Alors, il n'y a pas un profil. Il y a des profils, et c'est vrai qu'il y a des grands pervers. Il y a des grands pervers, et on sait que l'Église, comme enseignement, attire les pervers, bien sûr. Et donc, il y a des grands pervers, ils ne sont pas la majorité, mais il y a des prédateurs très, qui ont un truc très, très au point et qui est très huilé, j'allais dire. Et on peut penser qu'ils sont rentrés dans l'Église pour avoir accès à des enfants et avoir, comment dirais-je, accès à l'intimité des gens fragiles. Bon, je ne pense pas que ce soit la majorité, ça, il y en a. Il y a un autre profil qu'on appelle les opportunistes. C'est-à-dire, les opportunistes, ce sont des prêtres ou des clercs immatures qui, finalement, et c'est très frappant d'ailleurs quand on voit le détail, malheureusement, des abus sexuels, il y a quelque chose de l'ordre d'une. C'est pas une vraie sexualité, c'est une sexualité d'enfant, de la part des prêtres, non aboutie, non assumée. Et ça remet en cause d'ailleurs le recrutement qui était très majoritaire dans les années 60-70, de recrutement à partir de l'adolescence, c'est-à-dire à partir d'un moment où les prêtres sont, quoi, où les gens ne sont pas matures d'un point de vue sexuel. Je pense que c'est complètement différent. Et aujourd'hui, le fait que dans les séminaires et dans la vie religieuse, il y ait de plus en plus de gens qui rentrent en maturité, après avoir fait avoir consommé leur jeunesse et leur adolescence et qui ont parfois un métier, il y a moins de problèmes. Ça évite certains problèmes. Et puis, je crois aussi, pour le dire tout de suite, moi, ce qui nous a frappé, c'est la très grande solitude des prêtres, la très grande misère affective dans laquelle ils sont laissés, souvent. C'est très frappant que, par rapport à... on ne s'occupe pas d'eux. Sur le plan de leur développement affectif, de leur bien-être, de leur... il y a un moment où la solitude, c'est la même chose pour le vœu de pauvreté des sœurs. Il y a un moment où une trop grande pauvreté, c'est probablement inhumain. Et deuxièmement, ça expose à toutes les récupérations, toutes les prédations possibles. Je crois que c'est... il y a une autre question. Est-ce que l'on peut dire que la vocation transcende les besoins sexuels? Comment les prêtres peuvent-ils vivre dans l'abstinence? C'est pas à moi de répondre à la question. Mais ce qu'on peut dire, c'est que je trouve... Mais là, j'exprime un point de vue de mes créants qui n'engagent que moi. Mais le célibat n'est pas une cause directe, comme on l'a dit. Ce serait beaucoup trop simple. Et je pense que le célibat, quoi, personnellement, le célibat doit être réservé à une catégorie de prêtres et de religieux qui sont capables de l'assumer, pour lesquels ça représente une démarche tout à fait, qui est pleine de sens pour eux et pour la société. Pourquoi en faire une condition de l'accès au sacerdoce? On pourra parvenir, c'est pas du tout mon domaine, mais avec les théologiens avec lesquels on a travaillé, cette question du sacerdoce, du sacrifice, elle est une source de beaucoup de problèmes, et elle ne va pas de soi, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle ne va pas de soi, dans le sens, et le fait d'avoir réintroduit dans la prière eucharistique une référence à mon sacrifice de la part du prêtre est très problématique, à mon sens. On travaille avec Hervé Legrand, qui était professeur d'ecclésiologie à l'Institut catholique, à Dominicain, et c'est très intéressant ce qu'il raconte. Et il y a une histoire, c'est pas récent, mais c'est pas du tout cette idée d'un sacerdoce sacrificiel du prêtre n'est pas du tout consubstantiel au dogme chrétien depuis le départ, loin de là. Ça fait partie du travail qu'il faudrait faire. Que pensez-vous de la lecture du péché, faute contre Dieu? Alors là, je crois que avec Claire, qu'on a préparé cette séance, je crois qu'il ne faut pas mélanger les genres, que ça a beaucoup trop nuit à l'Église, ce mélange des genres, c'est-à-dire de tout spiritualiser à bon compte et rapidement. Et d'introduire tout de suite le pardon, etc. Voilà. Je pense que il faudrait faire un moratoire sur le mot pardon. Il faudrait interdiction de l'utiliser pendant plusieurs mois pour aborder le problème en dehors de cette sorte de mot magique qui complique tout. On travaille avec des communautés religieuses et on est en train d'élaborer ensemble avec la commission avec laquelle je travaille comment est-ce qu'on peut prévoir une réaction intelligente et posée à ces problèmes. Et en fait, revient souvent l'idée, il faut regarder la réalité, toute la réalité, et la regarder quasiment sans juger, parce qu'on a tendance soit à se défausser, soit à battre sa coulpe alors que les gens ne sont pas responsables, des gens qui n'avaient véritablement rien vu. Il y a le directeur des supérieurs généraux qui disent « mais moi, je n'avais rien vu venir sur le frère machin, absolument rien ». Et puis, quand je regarde dans mes archives, je tombe sur une lettre et je me dis « mais aujourd'hui, avec ce que je sais, j'aurais dû le savoir, j'aurais dû alerter ». Sur le coup, j'ai pas compris ce qui m'était adressé par les parents de cette victime. Et ce qui est important, c'est de voir pourquoi j'ai pas réagi à ce moment-là. C'est pas me culpabiliser, à dire voilà, tu prends toute la faute, ce qui est la tendance spontanée, naturelle des supérieurs, c'est de dire c'est de ma faute. Non, il faut faire un travail de ce que les anglo-saxons appellent ça post-mortem, c'est-à-dire un débriefing. Un audit général de ce qui marche et ce qui ne marche pas et des causes profondes, et souvent avec d'ailleurs en prêtant l'attention à des choses qui sont comme des détails, mais qui sont extraordinairement importants. Donc, pas de pardon, pas de culpabilisation inutile, stérile, mais regarder ensemble comment ça n'a pas marché, comment est-ce qu'on n'a pas pu se scandaliser devant ce qui était révélé. Alors, c'est vrai aussi, ça c'est un facteur sociologique, que quand il y a de moins en moins de prêtres, il y a des, pas tout le monde et pas les diocèses, mais il y a des communautés qui sont pas très regardantes et qui ordonnent et prennent des vœux de gens problématiques. Et il y a une réelle difficulté avec les communautés nouvelles qui sont en fait des associations de fidèles pratiquant la vie religieuse, qui ne sont pas véritablement des religieux et qui posent beaucoup, beaucoup de problèmes, parce que parfois c'est ce qu'on a découvert ces dernières années, c'est que c'est le fondateur de ces communautés, lui-même, était un prédateur. Alors ça, quand il y a une communauté qui est fondée dans l'inceste et dans l'abus, ça peut pas... C'est une question qui est débattue aujourd'hui. Est-ce qu'un arbre pourri peut donner des fruits sains? C'est une vraie question. C'est une vraie question, et c'est dans, entre parenthèses, une situation terrible pour... les prêtres et les religieux saints, entre guillemets, appartenant à ces communautés, parce que qu'est-ce qu'on fait là, quoi? Qu'est-ce qu'on fait là quand les fondateurs historiques, les pères Filet, Marie de Vélique, Jean Vannier, etc., étaient en fait des prédateurs. C'est très, très, très cruel. Alors, on comprend que l'institution se sent au-dessus de la parole. Est-ce votre senti? Ça, c'est une excellente question. C'est une excellente question, parce que pour le dire très rapidement, ce que je constate, c'est que, pour le dire, oui, à la base, il y a énormément de gens bien, qui sont extrêmement dévoués, pour qui on sent qu'il y a une volonté de mettre une vie en cohérence avec les valeurs de l'Évangile dans son impossibilité, mais toute sa beauté. Mais il y a passé un certain niveau dans l'Église, on n'entend plus parler d'Évangile. On entend parler parfois de Dieu, toujours pour dire qu'on en est son porte-parole. Les valeurs évangéliques, le raisonnement de pasteur, si bien que, à force de ne pas parler de l'Évangile, on a envie de leur dire, mais à votre avis, de quel côté d'une victime abusée, d'un petit... parce qu'il y a une affaire de classe sociale dans les abus, hein, aussi un peu. C'est-à-dire que, pour faire court, je pense à un témoignage en particulier, on n'abuse pas les aristos, les enfants d'aristos. Et c'est cruel, mais il y a un rapport de classe sociale, hein. C'est pas par hasard que ce soit dans les congrégations de l'Ouest avec des gens pauvres qui... aujourd'hui... Alors, on va mettre ça... je pense qu'il ne faut pas, de tous les religieux et religieuses en France, que quel pourcentage est coupable, comprenant agresseur, abuseur et complice, pendant la personne d'assistance aux personnes en danger. Alors, il y a deux questions. Les religieux coupables, c'est un grand mystère, on ne sait pas. On a pris le chiffre le plus bas, qui était 3%. Ça ne peut pas être moins de 3%, ça peut être beaucoup plus. Mais on estimait que c'était que déontologiquement, on devait prendre le chiffre le plus bas, comme les 216 000 et le chiffre le plus bas dans le nombre de victimes. Est-ce qu'il y a plus d'abuseurs dans l'Église qu'on aurait sa société? Oui. Comment devient-on abuseur? Ça, c'est une question en soi, mais... je pense y avoir un peu répondu. La situation des prêtres, c'est bien une situation sur ces abus, j'y ai un peu répondu. Problème de la place à la considération de sexe dans la société. Et oui, alors ça aussi, il y a une sacralisation naïve et ignorante de la réalité par l'Église. La famille, ça ne peut être que tout bien. Et il y a une trop grande concentration sur les questions de morale sexuelle. De manière dogmatique, naïve et dans le fond, on pourrait beaucoup revenir là-dessus. C'est le juge des enfants qui parle autant que le membre de la science. La famille est malheureusement le principal lieu d'abus. L'inceste, le viol intrafamilial, oui, ça existe beaucoup, beaucoup. La civise de mon collègue Edouard Durand, oui, c'est un vrai problème, et je crois que cette sacralisation de la famille est quasiment théologique, quoi, et tout à fait, quoi, il faudrait reprendre, c'est une partie des choses, c'est aussi le lieu du tragique, la famille, les gens mariés le savent bien. Alors, la différence statistique entre garçons et filles à population, c'est la population générale, peut y avoir plus de différences de ce J-groupe. Alors, ce n'est pas uniquement parce qu'il y a plus de petits garçons qui passaient entre les mains des pensionnats. C'est vrai, les frères des écoles chrétiennes ont été mixtes que tardivement, etc. Mais je pense qu'il y a autre chose. Il y a l'immense tabou de l'homosexualité dans l'Église et parmi les prêtres. L'immense tabou, qui est tout à fait en décalage avec... La progression tout à fait heureuse, à mon sens, du statut des homosexuels dans la société civile. Et par certains côtés, la société civile et l'entreprise, elle est bien en avance de l'Église. Alors on pourrait dire, oui, mais l'Église garde ses valeurs. Non, elle ne garde pas ses valeurs, elle protège ses homos. C'est complètement différent. Et donc, je pense qu'il y a un véritable... travail, c'est un des multiples chantiers qui devra être entrepris. Alors, y a-t-il un hit parade des familles religieuses? Ça, c'est très difficile à dire. Ce qu'on peut dire, c'est que dans les communautés traditionnelles, il y a des mécanismes régulateurs. Pas dans toutes, ça ne marche pas tout le temps, mais il y a des mécanismes régulateurs. La tradition, il y a des élections régulières chez les cisterciens et les bénédictins et les... Bon. Ça fait que, en fait, il y a quelque chose qui fonctionne bien dans les communautés, c'est le renouvellement des responsables, ce qui n'est pas le cas des évêques. Et donc, ça explique aussi le fait que ça soit plus dynamique dans les congrégations que dans les évêchés. ça ne résout pas tout. Ça ne résout pas tout et ça ne résout pas le problème des communautés nouvelles, encore une fois, dans lesquelles on peut voir des choses mais extrêmement problématiques, extrêmement violentes et sans aucune corde de rappel. Femme dans l'Église, on en a déjà parlé. Avez-vous observé une situation similaire dans les communautés, oui, post-charismatiques, oui, gros problème, et gros problème qui s'explique d'ailleurs sociologiquement par le fait qu'elles ont eu le vent en poupe parce que c'est elles qui recrutaient. Et donc, pendant toute une période, l'Église des Maris, il y a peut-être des problèmes, mais elle recrute, elle parle aux jeunes, ça marche, on n'y touche pas, on les protège. Elles ne sont pas contrôlées. Canoniquement, elles ne sont pas contrôlées parce qu'elles dépendent d'un évêque dans lequel elles sont, je ne dis pas incardinées, mais dans lequel elles sont. Bon. Et cet évêque, on ne peut pas les contrôler. Quand bien même le voudrait-il, elles se trouvent réparties dans un peu partout en France. C'est très difficile de contrôler une communauté religieuse. C'est très difficile, c'est très compliqué. Si c'est une communauté féminine, c'est peut-être encore plus compliqué. Et donc, il y a une impunité de fait. Alors, c'est formidable jusqu'au moment où il y a le scandale de l'Arche de Saint-Jean. Et là, c'est dévastateur. Quand la curie pourra-t-elle un jour regarder en face tout ce qui s'est passé pendant des années? Ça, c'est une question que je ne peux pas répondre. Ce sera une immense question en soi. Alors, comment pardonner à quelqu'un qui ne demande pas pardon? Je crois qu'il ne faut pas pardonner, il faut laisser cette problématique du pardon à la conscience et lui laisser sa dimension spirituelle et on pourrait dire par certains côtés sublime. Les hommes, avant de pardonner, on n'a rien trouvé de mieux que la justice. Et que la justice qui doit trouver à s'honorer, à être honorée dans des conditions par exemple difficiles. Alors, il y a une question qui me semble un peu curieuse, que j'espère ne pas vraiment comprendre. Est-ce qu'on ne peut pas trouver curieux d'acheter le pardon par de l'argent? Alors, j'ai peur de comprendre ce que ça veut dire. J'ai peur de comprendre que finalement, il faudrait que les victimes ne demandent pas d'argent et qu'on ne les anonymise pas. C'est-à-dire qu'ils passent une vie de galère, de souffrance, et qu'il ne se passe rien. D'ailleurs, elles le disent souvent, les victimes, elles disent, moi j'ai passé une vie de galère, j'ai été hospitalisé en psychiatrie, j'ai eu des problèmes d'alcoolisme, j'ai des phobies, j'ai des tocs, etc., etc. Puis mon agresseur, il se porte très bien, il y a une messe chrismale de pardon, il est au premier rang, il se porte bien, manifestement il n'éprouve aucun sentiment de culpabilité, et savoir qu'il ne se passe rien pour lui, alors qu'il a abusé des dizaines de personnes, ça me révolte. Voilà, je crois qu'il faut, l'entendre. On nous a confié ou imposé des prêtres à l'histoire douteuse, et on avait juste qu'à dire amen. Ça, c'est une vraie question. Ça, c'est une vraie, vraie question. C'est une question pour les chrétiens, c'est une question pour les paroisses, c'est une question pour les communautés monastiques. Père Abbé me disait il y a assez peu de temps, il me disait, bon, moi, j'en peux plus. Je ne suis pas une prison pour prêtres abuseurs. Je suis une communauté monastique. À la fin, ça devient plus possible, quoi, d'avoir deux, trois... Bon. Ce qui pose bon de multiples problèmes, mais parmi ces problèmes, c'est celui qu'en fait, c'est très difficile de faire exécuter une peine, une sanction. Il y a des prêtres qui sont suspendus par leur évêque, qui continuent de marier en province, les évêques nous disent, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? On ne va pas leur mettre un policier derrière. C'est très difficile. Et l'exécution des sanctions, quand est-ce qu'on sera reçu par le pape François, mais il faudrait lui demander. Quand vous dites que le Vatican. Je pense qu'on a un sentiment, mais comme c'est pas un secret, ça c'est pas un peu originel. C'est-à-dire qu'en fait, la curie est très divisée. Et elle est très divisée de manière intéressante, elle est divisée parce que, et c'est une préoccupation d'ailleurs pour le pape, c'est qu'il y a les sociétés d'Europe du Nord qui évoluent très vite, qui ont énormément évolué ces deux dernières décennies en matière de réforme sociétale. C'est même pas de la libération des mœurs, c'est comment on accepte qu'il y ait plusieurs vivre dans une société où il y a plusieurs orientations sexuelles, etc. Et qui lit tout, et puis le corps de la femme, le corps de l'enfant, quoi. Elles ont beaucoup, beaucoup évolué. Ce qui n'est pas le cas des autres sociétés, c'est même pas le cas de l'Europe latine. Hein. La France est la dernière de l'Europe du Nord, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, ils n'ont pas commencé le travail, ils le commencent. Mais ça. Et il y a l'immense crainte du schisme. Donc on voit bien, même à la Curie, ce qu'on m'a dit, hein, c'est qu'il y avait les Allemands, les Néerlandais, les Américains et les Français pour qui ils disent qu'il faut aller plus loin, parce qu'ils vivent dans des sociétés dans lesquelles ces sociétés vont plus loin, et puis il y a toutes les autres sociétés pour qui c'est impensable de parler de l'homosexualité, pour qui le sexe est tabou, etc. Et donc c'est un véritable problème. Bon, je crois que ça explique la réticence du pape vis-à-vis de nous, parce que c'est très difficile pour lui de tenir un message universel quand les sociétés sont à ce point différentes. Alors, est-ce qu'il y a une prise de conscience avant les années 50 des crimes sexuels? C'est intéressant, parce qu'en fait, les abus sexuels ont toujours existé dans l'Église. Les chartes monastiques sont les premières à parler des abus sexuels commis par des moines, depuis toujours. Donc, c'est pas du tout un problème nouveau. Et par certains côtés, il y a des moments de l'histoire, ce que nous disent les historiens, c'est qu'il y a des moments de l'histoire où l'Église était beaucoup plus, regardait beaucoup plus hein, ce que faisaient ses prêtres. Donc là, on a des surprises. Alors, il y a tout un tas de questions qui sont très, très importantes, qui tournent autour de ce qu'on peut faire vis-à-vis des cas qu'on voit, soit des enfants. Comment parler aux enfants? Alors, je pense qu'il faut en parler aux enfants. Je pense que les enfants d'aujourd'hui ne sont plus du tout les mêmes que ceux des années 50. Ils sont beaucoup plus avertis, trop et mal probablement, mais de la sexualité que nous n'étions pour les gens de ma génération. Je crois qu'il faut en parler, être attentif, imaginer ce qui peut se passer, être attentif à des signes faibles, par exemple un enfant qui... un enfant qui a une rupture brusque dans une évolution d'un enfant brusque et qui n'est pas liée à l'adolescence, le gamin qui rentre à un week-end scout, plus rien ne va, il est taciturne, il veut lui parler agressif, etc. Je crois qu'il faut y prêter la plus grande attention, et de la part des adultes imaginer qu'il a pu se passer quelque chose de nature sexuelle. Ce qui n'était pas le cas, c'était impensable dans les années 60-70. Et donc, être très attentif, parce que je crois que... Et puis, les prendre en considération, c'est extraordinairement important pour les enfants. Le sexe, c'est un peu Eros et Thanatos. Ça va chercher très profond chez les hommes. Et ça, encore une fois, ça peut détruire des vies. Une vie peut être détruite en un week-end, scout, avec la déprena. Et donc, si les parents et les éducateurs arrivent à réagir et à en parler, ça ne peut qu'aider et plus vite à rentrer dans une démarche de psychothérapie et puis d'être capable de... En parler. Ce qui est très frappant dans les abus sexuels, les enfants victimes n'en parlent pas du tout. Là, j'ai une famille où les sœurs ont découvert dans une fête de famille qu'en fait, ils avaient un grand-oncle prêtre qui a abusé toutes les générations. Elles ne savaient pas, elles ne s'en étaient jamais parlé. Sœurs jumelles de 40 ans. Donc, il faut être prêt, être extrêmement attentif. Alors, quand un adulte vous fait part d'abus sexuels, il ne faut jamais banaliser. C'est toujours grave. Ça ne veut pas dire que c'est toujours grave, c'est toujours quelque chose qui doit être verbalisé et qui mérite d'être accompagné. Alors, pour une dénonciation, pas dénonciation, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser les gens, avec ça, et ça peut être, c'est très fréquent d'ailleurs, ça va être une allusion, une allusion tout d'un coup, quelque chose, si on n'est pas attentif, on dit, mais qu'est-ce qu'il vient de me dire? Il vient de me dire qu'il a été abusé, parce que en racontant l'histoire d'une. Les filles, ça c'est typique, mais en tant que juge des enfants, mais c'est toujours aujourd'hui, c'est, elles viennent vous voir pour vous dire, moi j'ai une copine à qui est arrivé des choses, une copine, et puis elle raconte beaucoup de détails, puis à la fin la copine c'était elle. Et donc, délivrer les gens de leurs secrets et de manière appropriée, c'est tout à fait nécessaire aujourd'hui en tant que responsable. Que faire quand une plainte a été déposée auprès d'un évêque du lieu pour attouchement et que la lettre a été postée avec accusé de réception, portée en main propre, aucune réponse? Malheureusement, c'était plutôt la règle. C'était plutôt la règle il y a 20 ans. Et c'est vrai que c'est scandaleux et que c'est. Alors ça, il ne faut pas lâcher. Alors aujourd'hui, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher les évêques et les supérieurs majeurs pour, quand il y a quelque chose comme ça. Alors, quelle attitude avoir vis-à-vis de parents d'enfants, en tant que parents d'enfants, je pense, dont un animateur est soupçonné? Sans éléments de preuve. En parler, partager avec d'autres le soupçon, partager avec d'autres, parce que, encore une fois, la parole est le meilleur remède de ces affaires-là, et partager pour avoir un sentiment. Alors, comment faire la différence entre une parole inventée et une parole réelle, une victime? C'est très difficile en temps réel, c'est beaucoup moins difficile 40 ans après. C'est-à-dire que, oui, il y a des affabulateurs, absolument, et il vaut mieux que des propos d'affabulateurs soient discutés et s'éventent d'eux-mêmes plutôt que de se croire capable de les évaluer immédiatement et de ne pas répercuter. Parce qu'après, on voit les dossiers, mais c'est la même chose en tant que juge, on voit les dossiers avec des catastrophes, des vraies catastrophes, avec suicide ou je ne sais pas quoi, puis on dit, mais il en avait parlé à sa sœur. Et alors, je ne vous raconte pas l'état de la sœur après le suicide. Donc, encore une fois, ce sont des affaires très graves pour la vie intérieure, pour la vie psychique, qui créent des dévastations considérables. Alors, ça veut pas dire, et quand on en parle, ça veut pas dire que ça arrivera devant le procureur ou que ça sera éventé. Il faut absolument restituer à ces affaires leur gravité, même pour des faits très anciens. Que faire si c'est pas. Alors après se pose la formation des prêtres, mais ça c'est un peu une autre question. On intervient de plus en plus dans des séminaires et je reviendrai à la fin sur cette question. Comment réagir face à une confidence de quelqu'un qui a été abusé ou le problème L'écoute, ne pas la lâcher, c'est-à-dire pas banaliser, prendre son temps, l'aider à formuler ce qui s'est passé, le soutien. C'est-à-dire, je pense que l'écoute et la verbalisation et l'écoute sont absolument indispensables, en sachant que je pense qu'il y a un jour on entendait une victime qui venait 40 ans après les faits. Et on a changé des propos comme ça, et puis au bout d'un certain temps, il me dit « Est-ce que vous avez conscience que ce que vous me demandez de faire, c'est comme si on me demandait de me jeter du deuxième étage de la tour Eiffel ?» Il éclate en sanglots, incapable de dire quoi que ce soit. 40 ans après les faits. Et donc, pouvoir parler, c'est à l'évidence, et après, bon, Et je crois que les amis et les proches ont un rôle très, très important. Alors, que puis-je faire d'autre qu'une écoute bienveillante? Ben, c'est déjà parfait, l'écoute bienveillante. Parce que si, ça peut paraître un peu surprenant. En fait, les gens vous parlent quand vous les autorisez à parler. Quand vous les autorisez et quand vous, vous êtes prêt à entendre des choses que vous ne voulez pas entendre. Parce que c'est terrible d'entendre ce qu'ils ont à dire. Encore plus pour des chrétiens. C'est terrible, encore plus pour des prêtres qu'on a connus ou qu'on connaît encore. Et donc, si vous ne les autorisez pas à le dire, ils ne le diront pas. Et d'ailleurs, souvent, dans une audition, un mot déplacé, ça peut... Tout de suite, les gens s'arrêtent, ils ont compris, c'est, je ne parlerai pas, elle ne peut pas l'entendre, je m'arrête là. Les victimes ne peuvent parler qu'à des gens qui peuvent les entendre. Après, il y a des psys qui sont là pour ça et qui font dans la grande majorité un très bon travail. Et c'est les gens qui sont venus voir la science, certains n'avaient jamais parlé du tout. La plupart avaient parlé à leur psy, mais ils n'avaient pas parlé à leurs proches, n'avaient pas parlé. Si vous voulez, la règle, c'est qu'on en parle paradoxalement plus facilement à la télévision ou à des gens qu'on rencontre dans le train, comme autrefois dans les wagons, qu'à des copains, qu'à ses proches. En parler à ses proches, c'est extrêmement difficile. Il y a des gens avec lesquels je travaille, qui ont parlé depuis longtemps, qui ont fait tout un travail, y compris avec l'Église, qui n'ont toujours pas parlé à leurs femmes, qui ne peuvent pas. Qui abusaient en tant que petits garçons, quoi, quand ils étaient petits garçons. Donc, voilà. Et je pense que ce travail qu'on fait cet après-midi, mais c'est vrai de ce que vous ferez par la suite, c'est-à-dire ne pas dramatiser, ne pas ajouter du pathos au pathos, mais essayer de trouver des solutions pour repérer les signaux faibles, pour accompagner, etc. Après, il y a des questions. Et ne pas, je pense que, encore une fois, ne pas spiritualiser cette écoute, c'est une écoute de fait humain, affreusement humain, et il ne faut pas y mélanger tout de suite de la spiritualité, parce que ça peut tout compliquer. Il y a une femme dans une communauté religieuse qui est extrêmement abîmée, extrêmement abusée. Elle m'a envoyé son mémoire. Elle a écrit, elle écrit la nuit quand elle va dormir. Et elle écrit, ce qu'elle m'envoie, elle me dit « Ma nuit est lumière ». Et en fait, avec les autres dans l'équipe, on s'est dit « Mais non, sa nuit n'est pas lumière, sa nuit est un enfer ». Et elle cherche à s'en sortir, à se raccrocher. Bon, mais non, sa situation est intolérable, elle est scandaleuse, et il faut qu'elle en sorte. Donc, voilà. Alors, la réparation, est-ce qu'on peut réparer l'indemnisation? Ça, oui, on peut faire des choses. Réparer, non, c'est irréparable. Mais il est possible de relancer une mécanique. C'est ça qui est formidable avec la vie, c'est qu'il n'est jamais trop tard. On peut toujours, même tardivement, rebondir. Il y a quelqu'un que j'ai entendu, que je connaissais professionnellement, quelqu'un d'assez connu, qui avait demandé à être entendu, et lorsque je l'ai revu 2 ans après, il m'a dit « Tu sais, c'est formidable, depuis qu'on s'est parlé, j'éprouve un sentiment de proximité avec des gens que je n'ai jamais éprouvé de toute ma vie. » Il y a 72 ans. Et il dit « J'ai dirigé des équipes, j'ai été dur avec elles, et je me disais parfois « Mais pourquoi t'es dur comme ça avec tes collaborateurs ?» Et puis, maintenant, ça a changé. Et je crois que la bonne nouvelle, c'est qu'il est quand même possible de faire des choses et de trouver des solutions. De trouver des solutions qui passent par la parole, qui passent par la reconnaissance, et qui effectivement s'avère la force que la parole humaine et un sujet d'émerveillement quotidien. Voilà, dernière question, j'en prends comme ça, c'est la dernière, mais pour moi c'est la plus importante. Comment ne pas être complètement découragé? Je crois je crois que du plus grand mal peut sortir un plus grand bien. Et je crois que par certains côtés, c'est à partir de cela que de cette situation, du constat, de notre capacité à la regarder, de votre capacité à la regarder, que des choses peuvent changer. Moi, c'est ce que c'est personnellement ce à quoi je travaille. Merci.